Yeah, she has an ego. She's Victoria Beckham.
La première.
Tonight we bring you the story of how David Beckham,
Les Clés Médias,
became a global phenomenon.
Marie Van Kutsem.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés Médias. L'affaire a fait le tour des internets. Brooklyn Beckham, le fils aîné de Victoria et David Beckham, est en conflit ouvert avec ses parents. Il y a une dizaine d'années, vous auriez vu passer l'info dans ce qu'on appelle la presse people. Aujourd'hui, c'est Brooklyn Beckham lui-même qui a allumé la mèche sur son propre compte Instagram. La presse people, c'est un secteur qui a dû évoluer avec l'arrivée des réseaux sociaux. Les célébrités se sont réappropriées leur image, leur narratif. Mais que deviennent Voici, Closer, Gala, Paris Match et les autres? Comment cette presse people s'est-elle transformée depuis l'âge d'or des paparazzi? Quel business model a-t-elle mis en place? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Bienvenue à vous.
La première, les clés médias.
I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football.
David et Victoria Beckham, le footballeur et l'ex-Spice Girl. Deux physiques, deux carrières et beaucoup de paillettes. Ce que vous avez entendu ici, c'est un extrait de la série Beckham sur Netflix. Quatre épisodes qui promettent des images et des archives inédites de l'ascension du sportif.
I don't give up easy.
It's Beckham.
Toujours sur Netflix, autre série sobrement intitulée Victoria Beckham, pour découvrir comment la Spice Girl s'est lancée dans le monde de la mode.
Yeah, she has an ego. She's Victoria Beckham.
People thought she was a pop star. She's married to a footballer. Who does she think she is?
Dans ces deux séries, le contrôle de l'image est parfait. Un équilibre étudié entre instants de nostalgie, prise de parole intimiste face à la caméra et moments de suspense. Cette image maîtrisée ne se limite pas à ces séries biographiques. Compte Instagram, sorties familiales, les Beckham ont quatre enfants, adolescents et jeunes adultes, tout est parfait.
De la République française, nous vous faisons officier dans l'ordre des arts et des lettres.
Comme ici, il y a quelques jours, quand Victoria Beckham a été invitée par Rachida Dati, ministre française de la Culture. Elle a reçu la décoration d'officier de l'Ordre national des arts et des lettres pour son travail dans la mode.
France is one of the few places where fashion is treated with the seriousness it deserves, as a form of art.
Les flashs crépitent, gros plans sur la famille, David, leurs enfants et leurs conjoints, le sourire, le soutien. Mais il manque quelqu'un, Brooklyn Beckham, le fils aîné. 26 ans. C'est que mi-janvier, la marmite a explosé. Le 19 janvier, Brooklyn publie un long texte sur son compte Instagram dans lequel il confirme être en conflit ouvert avec ses parents.
L'amour familial, entre guillemets, se mesure au nombre de publications sur les réseaux sociaux ou à la rapidité avec laquelle on se dépêche de tout laisser tomber pour une séance photo de famille, même au détriment de nos obligations professionnelles. Pendant des années, nous nous sommes pliés en quatre pour être présents à chaque défilé, chaque soirée et chaque événement médiatique afin de montrer notre famille parfaite.
Brooklyn l'affirme, il ne veut pas se réconcilier, il veut vivre sa vie loin du système Beckham avec son épouse Nicola Peltz. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle du prince Harry et de Meghan, les dissidents de la famille royale britannique. Harry, que l'on a vu à Londres, arrivé au tribunal il y a 15 jours. Pour son procès, aux côtés d'autres célébrités contre l'éditeur de plusieurs grands tabloïds anglais. Ces stars accusent notamment le Daily Mail d'avoir utilisé des méthodes illégales pour obtenir des informations sur leur vie privée, écoutes téléphoniques, micros cachés ou encore dossiers médicaux consultés.
Les journaux incriminés rejettent les accusations, les qualifiant de calomnies absurdes.
L'affaire concerne des actes répréhensibles anciens ou des allégations d'actes répréhensibles anciens. Aucune preuve scientifique directe n'a été apportée.
Le procès va durer 9 semaines et pourrait déstabiliser sérieusement la puissante presse à scandale britannique et créer un précédent. Alors, entre poursuites judiciaires et réseaux sociaux, la presse people va-t-elle survivre? On en discute avec notre invité. Bonjour Jamil Dakia.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris, au sein de l'Institut de Recherche Médias, Culture, Communication et Numérique. Alors cette affaire Brooklyn Beckham, puisque c'est un peu le point de départ de cette émission, comment est-ce que vous l'analysez, vous ?
Moi, je l'analyse par le fait qu'il s'agit d'une famille de professionnels de la célébrité et ça interroge sur les rapports entre célébrités, par exemple les compétences pour devenir célèbre. Beckham est le père. Est un footballeur à la retraite. Son épouse est issue d'un girls band et elle n'est pas particulièrement connue pour être une bonne chanteuse. Mais tous les deux ont réussi à prolonger leur célébrité, à l'augmenter, notamment sur les réseaux sociaux, par un certain nombre de choix stratégiques. Et le fils, lui aussi, ses compétences de photographe sont raillées. Il est surtout célèbre pour être célèbre. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce beau monde-là lave son linge en famille, en public. Voilà.
Alors, Jamil Daglia, on va revenir avec vous sur l'évolution de ce qu'on appelle la presse people. C'est un segment bien particulier dans les médias. Un petit peu d'histoire. D'abord, quand est-ce qu'on identifie les débuts de ce qu'on appelle alors une presse de célébrité ?
Alors, la presse de célébrité, telle qu'on la connaît, elle commence à prendre forme dans l'après-guerre, avec des titres comme Ici Paris ou France Dimanche, qui sont assimilés à ce qu'on appelait à l'époque une presse de boulevard, ou pire, une presse de caniveau. Et puis, il y a des titres un peu plus respectueux des célébrités, du type Point de vue ou Paris Match, même si Paris Match n'est pas qu'un magazine People, il parle aussi d'autres types d'actualités. Mais voilà un peu ce qui illustre la presse de célébrité dans l'après-guerre. Et puis on a un tournant fin des années 80 avec le groupe Prisma Press, celui qui va créer Voici et Gala, et qui revendique une approche plus, on va dire, plus moderne, plus glamour, d'où l'anglicisme People, et aussi qui lance les premières vraies photos volées, les premières vraies paparazzades à l'insu et contre la volonté des People.
Alors on va y revenir, hein, bien sûr, mais je vous ramène en 1960 avec une petite archive que l'on va écouter tout de suite.
Depuis cinq jours, les caméras du monde entier ont été refoulées, sauf celle de cinq colonnes à la une. Le vigile lui-même nous a laissé passer. C'est chez Brigitte Bardot que nous sommes, modestement vêtus Nicolas et Charmant. Les journaux du monde entier ont publié la photographie de Nicolas et de sa mère. Cela prouve que Brigitte Bardot est très célèbre, mais je ne vois pas pourquoi cette célébrité l'empêcherait d'être aussi une femme comme les autres, une femme plus heureuse depuis cinq jours. Alors disons-lui simplement que Nicolas est beau et laissons-les se sourire entre eux.
Voilà, Brigitte Bardot filmée chez elle avec son bébé de 5 jours, Nicolas. Après coup, on l'a appris. L'actrice, elle n'était pas forcément demandeuse de ce reportage, de ces images prises dans son appartement, dans son intimité. Ce ne sont pas encore les paparazzis à l'époque, mais il y a quelque chose quand même qui s'installe là.
Mais il y a une espèce d'injonction à mettre en scène sa vie privée. Bon, ça existait déjà avec les stars hollywoodiennes et puis ça s'est étendu à toutes les catégories de personnages publics en réalité. Et c'est, oui, dans les années 50-60 que cela a été commenté par exemple par Edgar Morin qui parlait des Olympiens. Et ce qui est intéressant dans le reportage, c'est que on explique que toute célébrité qu'elle soit, Brigitte Bardot est aussi une mère, une femme, et c'est ça qui attire finalement dans ces célébrités, c'est-à-dire qu'elles ont un statut, une vie, un mode de vie tout à fait exceptionnel qui fait rêver, mais elles sont rattachées au reste de l'humanité par des préoccupations et des activités ordinaires, donc le fait d'être parent ou enfant, d'être malade, d'être amoureux, etc.
Oui, c'est toute cette dualité qui plaît au public et qui va continuer à traverser, bien entendu, cette presse People. Alors, vous parliez tout à l'heure des années 80-90. Là, effectivement, la presse commence à faire son beurre sur les photos volées. Ça, c'est vraiment un cran plus loin.
Oui, tout à fait. C'est un cran qui était déjà passé dans les tabloïds britanniques. Mais pour ce qui est de l'Europe continentale, c'est vraiment la période où ce type d'intrusion se développe. Et ça se fait, bien évidemment, sur la base de calculs, de rentabilité. Et parce qu'on sait que derrière, il y aura des procès. Mais voilà, on fait la balance entre ce que rapporteront les ventes et ce que coûteront les procès.
Oui, il faut quand même s'arrêter un moment sur le cas particulier de la Grande-Bretagne, parce que vous évoquiez les tabloïds qui avaient déjà franchi ce pas-là depuis un moment. Comment on explique le succès de cette presse People, voire presse à scandale, là-bas ? Est-ce que c'est le public qui est particulièrement friand ? Est-ce que ce sont des célébrités nombreuses ? On pense évidemment à la famille royale. Ou est-ce que ce sont des puissants groupes derrière les titres de presse ? Qu'est-ce qui explique ça, en fait ?
Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait qu'en Grande-Bretagne, ce qui primait, c'était vraiment le droit à l'information. liée évidemment à une notion de liberté de la presse, donc c'est un principe vraiment qui est au fondement de la démocratie en Grande-Bretagne. Le deuxième point, c'est que les tabloïds ont réussi à produire une information quotidienne, contrairement aux magazines People, qui sont des hebdos par exemple. C'est une information quotidienne populaire, enfin qui s'adresse aux classes à la fois ouvrières, classe ouvrière et classe moyenne, et donc elles occupent un créneau très particulier dans le paysage médiatique britannique, et jusqu'à aujourd'hui, ces titres réussissent à maintenir cette place, cette popularité, sur la base d'un sensationnalisme qui est revendiqué, hein. C'est sexe, sang, scandale, sport aussi, on peut ajouter un S. Et donc voilà, ils ont trouvé un créneau. Et puis, derrière, il y a aussi des groupes, effectivement, qui sont très puissants, internationaux. Et je pense, par exemple, au groupe de Rupert Murdoch, donc qui est un milliardaire australo-américain, et qui a réussi à percer, notamment à travers des tabloïds britanniques comme News of the World ou bien en rachetant le Sun.
Oui, dont l'histoire même fait l'objet d'ailleurs de photos et de spéculations du public aussi, hein, avec la grande succession, oui. Murdoch. Et comment expliquer du côté du public alors que ce genre de presse people-là n'est pas pris à ce point dans d'autres pays européens ? Est-ce qu'il y a une appétence particulière du public britannique pour ces tabloïds, pour ce qu'ils proposent ?
Alors, en fait, ça rejoint une sorte d'idéologie, de sentiment anti-élite, en réalité, qui paradoxalement est assez conservateur. C'est-à-dire, en gros, le discours de ces tabloïds, pour la plupart, c'est les gens qui possèdent des privilèges, les possèdent, mais de façon indue, et ils ne les méritent pas, et nous allons vous montrer qu'ils ne sont pas à la hauteur de la place sociale qu'ils occupent. Ils essayent, en fait, de fédérer un public autour de sentiments qui ne sont pas toujours très, très nobles, on va dire.
Ce qu'on trouve moins en France, en Belgique ou ailleurs en Europe ?
Alors, la manière d'aborder la question des célébrités est plus dévolue à des magazines, à la question de la photo de qualité, aux récits qui accompagnent aussi cela. Et c'est moins des révélations fracassantes. On peut penser que c'est lié à des questions culturelles aussi. Enfin, certains rattachent ça à la prégnance d'un modèle catholique où finalement tout ce qui est péché peut se racheter par la confession, mais la confession privée, tandis que dans les pays protestants, donc États-Unis, Grande-Bretagne, la confession se doit d'être publique. Donc, ce n'est pas les mêmes mentalités.
Je vous propose de piocher une autre archive. Nous sommes le 6 septembre 1997.
L'adieu du peuple d'Angleterre à sa princesse. La foule était là, recueillie, silencieuse, pour rendre un dernier hommage à Lady Diana. D'abord sur le parcours jusqu'à l'abbaye de Westminster, puis tout au long du trajet qui devait l'amener à sa dernière demeure, une petite île sur un lac près de son village d'Alton.
Les obsèques de la princesse Diana, sa mort brutale après une course-poursuite à Paris avec des paparazzis. Est-ce que ça va être un moment charnière pour cette presse People, presse à scandale ? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de questionnement déontologique ?
Indéniablement, ça a été un tournant parce que Diana est apparue comme une sorte de martyr en fait des dérives de la presse People et plus largement a créé un sentiment de culpabilité dans l'opinion publique. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait tous ces reportages, toute cette intrusion dans sa vie, c'est aussi parce que il y avait un public pour acheter ces reportages, pour s'intéresser à sa vie. Parce que jusque-là, quelqu'un comme la princesse Diana, eh bien, on lui reprochait aussi de jouer de cette médiatisation. Et c'est le procès qu'on fait de toute façon encore aujourd'hui aux célébrités. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si elles sont des victimes ou bien si elles instrumentalisent la divulgation de leur vie privée.
Ce questionnement déontologique qu'on évoquait, est-ce qu'il va durer ? Parce qu'on se permet d'en douter un peu, puisqu'on évoquait dans l'introduction ce fameux procès intenté par le prince Harry et d'autres à l'égard notamment du Daily Mail. Les problèmes sont toujours là avec cette presse à scandale ?
Les problèmes sont toujours là parce que, encore une fois, il y a toujours un public pour s'intéresser à ce type d'informations. En revanche, là où il y a eu des progrès, c'est par rapport aux méthodes employées. Et ce qui se joue actuellement avec le procès intenté notamment par le prince Harry, mais pas que, il y a d'autres célébrités comme Elton John, par exemple, Elizabeth Hurley, contre le journal Daily Mail, c'est sur la base des méthodes employées, c'est-à-dire les écoutes illégales, par exemple, les micros placés dans les domiciles, la consultation de dossiers médicaux. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui provoquent un revirement de l'opinion britannique, qui jusque-là défendait vraiment les méthodes de la presse, parce que au nom de la liberté de la presse. Et maintenant, le regard a changé en Grande-Bretagne, et ça, c'est très intéressant.
Et vous pensez que ça va évoluer vers quoi ? Une plus grande législation, un cadre légal plus précis sur les questions de vie privée, par exemple ?
Ah ben, au Royaume-Uni, clairement, ça a évolué vers une prise en compte du droit à la protection de la vie privée beaucoup plus importante. Et ça se traduit dans les tribunaux. Ça se traduit par des dispositifs comme ce qu'on appelle la super-injonction qui permet à des juges d'interdire à des médias de publier une information et même de parler du fait qu'on leur a interdit de publier une information. Donc le droit britannique, contrairement à ce qu'on imagine, est devenu beaucoup plus strict en matière de divulgation, notamment d'informations sur la vie privée. Et inversement, en France par exemple et dans d'autres pays européens, les tribunaux prennent de plus en plus en compte la notion d'intérêt général et de droit de savoir dans les décisions qu'ils rendent sur les violations de la vie privée par des paparazzis par exemple. Ce qui fait qu'il y a une espèce de nivellement, de rééquilibrage sur l'ensemble de l'Europe.
Il faudra évidemment observer comment tout ça évolue. Jamil Dakhlia, on poursuit notre ligne du temps, les années 2000-2010. Alors là, c'est l'essor de la télé-réalité et on a vraiment une forme de rencontre entre deux mondes qui sont faits pour s'entendre, on va dire. Ces émissions et leurs candidats d'un côté, et puis de l'autre, cette presse people qui a toujours besoin de nouveaux visages.
Oui, c'est exactement ça. En fait, ça marque une évolution qu'on sentait venir, qui est l'évolution vers la démocratisation de la célébrité. C'est-à-dire, on arrive à un moment où on peut se dire tout célèbre. Tout le monde, finalement, peut avoir droit à la célébrité, tout simplement parce que, eh bien, on est un homme ou une femme ordinaire qui s'est trouvé filmé dans une émission et dont la promesse était précisément de rendre célèbre, de fabriquer des stars minutes. Et donc, la presse People, pour elle, ça a été tout bénéfice parce que ça lui a permis d'élargir encore le champ de ses vedettes et aussi, et non sans malice, de pouvoir être très intrusif par rapport à ces personnes-là parce que ces personnes-là ne pouvaient pas se défendre devant les tribunaux puisqu'elles avaient accepté à la base de se présenter devant les caméras, de montrer 24 heures de leur vie tous les jours. C'était des proies faciles, on peut dire.
C'est intéressant parce que ça nous amène à l'étape suivante, celle des réseaux sociaux. La télé-réalité préfigure le succès des influenceurs. Tout ça va émerger en même temps avec une nouvelle direction pour la presse People. On va y venir. Avant cela, je vous propose d'explorer avec Sarah Pousset un concept qui va nous éclairer sur le lien entre le public et les célébrités. On parle de lien parasocial. C'est le mot de l'année 2025 pour l'Université de Cambridge et vous allez comprendre pourquoi.
Pierre de Béraille est psychologue. Dans sa thèse, il s'est intéressé aux relations parasociales entre les youtubeurs et leur public et il nous explique en quoi consistent ces interactions.
Une relation parasociale, c'est une relation qu'établit un spectateur avec une figure médiatisée. Alors, cette relation, elle est définie comme asymétrique et non réciproque, c'est-à-dire qu'elle va que dans un seul sens.
Le phénomène des relations parasociales n'est pas nouveau. De tout temps, il a davantage touché les personnes en construction identitaire, par exemple les adolescents. Mais ces dernières années, l'arrivée des réseaux sociaux a changé la donne.
Là, on va dire que c'est le mot de l'année, aussi parce qu'il y a une explosion, en quelque sorte, des relations parasociales avec les médias sociaux, qui ont fait que ces relations parasociales se sont beaucoup développées et même intensifiées dans les 20 dernières années.
Les réseaux sociaux ont en effet démultiplié l'ampleur du public en contact avec les publications des personnalités médiatiques, mais aussi à l'inverse, le nombre d'informations sur ces personnalités. À force de stories, de vidéos ou de directs, on découvre l'intimité des stars et elles intègrent notre quotidien. Ce qui crée une certaine confusion, comme l'explique Pierre de Béraille.
Aujourd'hui, on va dire la forme des relations parasociales, ce sont des relations parasociales qui jouent en quelque sorte sur le flou de l'accessibilité de la figure médiatisée. Et c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que la conscience que la figure médiatisée est accessible intensifie la relation parasociale avec cette figure. L'impression qu'on peut avoir des interactions sociales avec la figure médiatisée, plus on a cette impression-là, plus cela va avoir tendance à renforcer la relation parasociale que l'on va développer pour cette figure médiatisée.
Les relations parasociales ne sont pas négatives en soi. En période d'isolement, elles peuvent même aider à se sentir entouré. Mais le phénomène devient pathologique quand l'intensité de la relation est trop forte. Dans ce cas, l'individu a tendance à s'isoler, à privilégier ses relations parasociales au contact avec son entourage, ce qui entraîne son lot de symptômes dépressifs et d'anxiété.
L'autre élément négatif qui peut être constaté, c'est lorsque, avec une forte intensité de la relation parasociale, se crée une sorte de flou sur la notion de à sens unique de la relation, c'est-à-dire des spectateurs qui vont avoir la forte impression, l'illusion, en quelque sorte, que la figure médiatisée les connaît autant qu'eux, ils la connaissent. Cette confusion va mener à des comportements qui sont inadaptés socialement, et ça peut bien sûr mener à l'isolement social aussi, mais également, on va dire, à des comportements d'intrusivité de la part des spectateurs envers les figures médiatisées, avec parfois certains cas de harcèlement aussi de certaines figures médiatisées, par exemple.
Ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'induit ce type de relation. En effet, comme un ami peut devenir une bonne ou une mauvaise influence, les propos d'une personnalité peuvent guider les choix, mais aussi les achats de certaines personnes.
Lorsque une figure médiatisée va faire la promotion de quelque chose, que ce soit un comportement, que ce soit une idée, que ce soit un produit, si le spectateur a une forte relation parasociale, il aura tendance à accorder plus de confiance dans les informations qui seront communiquées par cette figure médiatisée, et donc à plus facilement adopter ce qui est recommandé, ce qui est mis en avant par la figure médiatisée.
Alors que désormais tout le monde peut passer de spectateur à acteur sur ses propres réseaux et donc générer des relations parasociales à son encontre, Pierre de Béraille s'interroge sur les effets à venir. Pour le psychologue, cela impactera forcément notre image sociale et notre façon d'être avec les autres.
Jamil Dakhlia, on rappelle que vous êtes sociologue des médias. Dans notre chronologie de l'histoire de la presse People, on en arrivait donc à l'arrivée des réseaux sociaux. On a l'impression, comme avec Brooklyn Beckham, que petit à petit, les règles du jeu, elles changent. Ce ne sont plus les titres de presse People qui font l'agenda, mais les stars elles-mêmes, sur leur compte Instagram ou autre. On est face à un changement de paradigme ?
Complètement. Les réseaux sociaux, c'est la possibilité pour chacun, chacune d'entre nous, d'être son propre média. Et à partir de là, les vedettes, pour augmenter leur célébrité ou l'entretenir, soigner leur image, peuvent compter sur elles-mêmes sans passer par les médias traditionnels et notamment par la presse People.
Est-ce que ça veut dire que la presse People a disparu pour autant ?
Alors la presse People n'a pas disparu, mais elle s'est considérablement amoindrie. Elle a perdu des centaines de milliers de lecteurs. Maintenant, en fait, elle essaye de se repositionner sur Internet en ayant ses propres comptes. Les titres, en fait, essayent de se repositionner en tant que marque et de proposer une expertise particulière dans le décryptage des people et de leur vie.
Oui, cela dit, on se demande, c'est vrai, comment des Voici, Closer et autres ont réussi à se réinventer. Parce qu'on se dit, la presse classique, elle a déjà du mal à convaincre de payer pour avoir accès à ses contenus. On se dit que la presse People, ça doit être encore pire.
Oui,
quel est le business model, en fait, aujourd'hui ?
Absolument. Toute la question est là. C'était déjà difficile à l'époque des publications print parce que l'une des failles de la presse People, c'était la publicité. Elle avait du mal à capter des annonceurs prestigieux, d'avoir des recettes publicitaires importantes parce que les annonceurs ne voulaient pas trop s'associer à ce type de discours, parfois un peu trash. Alors, ceux qui s'en sortent, c'est comme les titres People qui sont assez respectueux des célébrités et qui jouent sur le glamour du type Gala, etc. Mais il n'empêche que sur les réseaux sociaux, arriver à monétiser une information people, même garantie par des règles journalistiques, c'est difficile aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu.
Donc on entend bien que les titres se cherchent, que le business model, il est en évolution, là, en recherche de monétisation. Pourtant, du côté du public, il reste cette demande pour un aspect plus vrai qui va descendre les stars de leur piédestal. Tout ça, c'est pas très glorieux, mais c'est humain. Cette presse people, elle reste quelque part une forme de contre-pouvoir symbolique.
Oui, cette attente, elle est toujours là. Et encore une fois, les titres People peuvent mettre en avant le fait qu'ils vérifient l'information, qu'ils ont des scoops, qu'ils arrivent à décrypter ces mises en scène de sincérité. Parce que les célébrités, actuellement, ce qu'elles offrent sur les réseaux sociaux, c'est leur authenticité. Mais cette authenticité, elle est évidemment fabriquée. Bon, donc les titres People font ça, mais vous remarquerez que les internautes font ça aussi très régulièrement, c'est-à-dire dès qu'il y a une vidéo, voir s'il y a un montage, s'il y a un trucage, s'il y a de la retouche. Et donc il y a toujours ce soupçon vis-à-vis de la mise en scène des célébrités, et surtout quand elle est faite par elle-même.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la presse people, finalement, c'est un objet d'étude et même un objet de conversation, hein, en général, qui a tendance à être un peu décrié. Allez, c'est vite associé avec des contenus populaires, voire un peu beauf. Comment on explique ce désintérêt, alors qu'on le voit bien dans cette conversation, il y a quand même plein de choses à en retirer et à comprendre sur la société dans laquelle on vit.
Oui, en fait, c'est une espèce de mépris, j'allais dire faussement de classe, c'est-à-dire de manque de légitimité culturelle des titres people dont on pense qu'ils sont lus exclusivement par les classes populaires, par les femmes. Donc il y a une forme de mépris social redoublé, si vous voulez, parce qu'en réalité, ça c'est une forme de misérabilisme vis-à-vis de ces catégories. En réalité, les informations people, je parle des informations people au-delà des titres people, elles sont lues et connues de tous. Alors, à des degrés divers, mais il ne faut pas oublier que ces personnalités, enfin les célébrités, ce sont des repères dans notre société. Ce sont des sortes de lieux communs, ce sont des personnages que tout le monde connaît plus ou moins et sur lesquels on peut projeter des tas de valeurs, d'identités, et ça sert de liant aussi aux conversations, aux débats, et ça permet de se positionner, je dirais, en étant protégé soi-même. Les discussions sur les people, c'est une manière d'aborder des sujets de société du type l'adoption ou bien la conciliation entre grossesse et travail, enfin toutes sortes de sujets. Ils servent dans ces cas-là de repères, de modèles ou de contre-modèles.
Alors Jamil Dakhia, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la peopleisation des politiques. On n'a pas de président en Belgique. La politique est moins attachée à quelques individus avec notre système proportionnel. Cela dit, on voit bien depuis quelques années que des personnalités émergent aussi, jouent sur cette frontière entre privé et public, jouent avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là derrière? Que les politiques deviennent à leur tour des célébrités?
Les politiques sont des célébrités, qu'ils le veuillent ou non, parce que en fait, notre société gravite autour de cette notion de célébrité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une économie de l'attention. Il y a une multiplication des médias, des manières d'informer et de communiquer, et notamment depuis Internet. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il y a une compétition incroyable pour attirer l'attention. Et celles et ceux qui sont des professionnels de l'attention, ce sont les célébrités. Donc, les politiques sont obligés de se comporter comme des célébrités, de recourir à des méthodes qui font penser au monde du spectacle, par exemple, pour se mettre en scène, de parler de leur vie privée. Et là aussi, on retrouve cette injonction à l'authenticité, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on s'attend à ce que tout un chacun parle de sa vie, et y compris de sa vie privée, de ce qu'il fait au jour le jour. Et les politiques s'alignent là-dessus. Et ils voient aussi un intérêt en termes électoraux.
Et qu'est-ce que ça implique pour la politique en général? Les discours, les programmes politiques qui vont disparaître derrière ces comptes Instagram, derrière ces anecdotes, ces petits clins d'œil à la vie privée, etc.
Alors le risque, c'est d'être trop focalisé sur des questions de personnalité, de trop personnaliser la politique. Cela étant, c'est une autre manière de faire la communication politique et ça peut être un moyen aussi de faire passer des idées, des programmes, mais de façon symbolique, c'est-à-dire regarder comment je vis et ma vie, elle est en adéquation avec ce que je voudrais pour la société. C'est un peu ça le discours quand c'est fait de manière cohérente. Mais parfois, il y a des contradictions flagrantes. Je veux dire par là qu'un homme politique qui prétend s'intéresser au sort de ses concitoyens et qui se mettrait en scène devant un château, par exemple, comme ça a été le cas pour François Fillon en France, eh bien là, il y a un décalage, il y a une incohérence, il y a quelque chose qui choque en réalité. Donc, devenir une célébrité, ce n'est pas forcément négatif, mais il ne faut pas perdre de vue l'intérêt général, c'est ça surtout.
Mmh, oui, et il y a des terrains glissants, on l'entend bien. Et ça, il faut pouvoir du coup maîtriser les codes. Un exemple de cela, c'est peut-être Donald Trump, lui-même issu d'ailleurs d'une émission de télé-réalité.
Oui, Donald Trump, c'est vraiment l'exemple du poids de la culture de la célébrité dans nos sociétés, puisque pour entrer en politique, en réalité, il n'a pas eu besoin, avant de se présenter à la primaire républicaine d'abord, et puis ensuite à l'élection présidentielle aux États-Unis, il n'a pas eu besoin d'avoir des mandats politiques, d'être élu, il n'avait jamais été élu où que ce soit, et en réalité son passeport, ça a été le fait qu'il ait participé à l'émission The Apprentice, et ça lui a permis aussi d'imprimer sa marque, c'est-à-dire celle qu'on connaît, c'est-à-dire d'un homme d'affaires brutal, direct, qui mâche pas ses mots. Et il a continué à cultiver ce style-là. Et dans ses commentaires, par exemple, sur la scène diplomatique, tout est référence, en fait, au monde du spectacle. Il dit « ça va faire de la bonne télévision ». Il a toujours ce regard, en fait, qui est celui d'un professionnel de la célébrité.
Et on arrive au terme de cette émission. Merci à notre invité pour sa présence, Jamil Dakhlia, sociologue des médias à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. À la réalisation, il y avait Jonathan Rémy, à la préparation, Sarah Pousset et Marie Van Kutsem. À très bientôt pour de nouvelles clés médias.